Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
Si on ne peut pas protéger la Terre, on la vengera, disait ce cher Tony Stark dans Avengers. Mais on conviendra qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Justement, cet épisode de la Réu est sponsorisé par NordVPN. NordVPN, c'est un service qui vous offre un accès sécurisé et privé à Internet. L'une des fonctionnalités de NordVPN, c'est de chiffrer toute votre activité en ligne et donc protéger votre anonymat et vos données personnelles, ce qui peut être bien pratique quand vous recherchez sans trop l'assumer des fanfictions érotiques entre Thanos et MODOK.
C'est ça que tu fais de tes soirées ?
Non, c'était purement hypothétique, puis on juge pas les goûts des gens. Enfin bref, avec NordVPN, vous avez aussi la protection anti-menace qui reste active même quand le VPN est éteint. Ça vous permet de bloquer les téléchargements de fichiers ou de logiciels malveillants, les sites de phishing et les trackers web qui collectent vos données pour vous inciter à acheter le Blu-ray d'Ant-Man 3 si vous aimez un peu trop MODOK par exemple, et je dis bien ça par exemple. Et pour compléter les pierres d'infinité de la cybersécurité, le pack avancé vous donne accès à NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui vous crée des mots de passe uniques et complexes pour vous éviter d'utiliser tout le temps le même. Ça vous aide à les stocker facilement et vous alerte en cas de brèche de sécurité. Avec le code promo LARÉU ou le lien en description de ce podcast, vous avez la possibilité d'obtenir une offre exclusive. Le logiciel est synchronisable sur jusqu'à 6 appareils en simultané et il y a une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Et maintenant, parlons de Marvel.
Salut Alex, salut Antoine,
salut Déborah. Salut Déborah.
Bienvenue dans cette nouvelle Réu. Je vous cache pas que j'ai réuni dans cette salle les meilleurs d'entre nous, les semi-Avengers d'écran large, parce que c'est bien beau de parler de Fincher ou des films de dinosaures, mais avec la sortie de The Marvels début novembre, il fallait bien qu'une partie de l'équipe se rassemble pour en parler. On n'allait pas pouvoir esquiver bien longtemps le sujet Marvel, hein, qui reste un énorme sujet pour le site et un énorme sujet tout court, en fait. Bon, clairement, on va pas revenir sur tous les films du MCU, parce que bah, y en a 34, en fait, 33, et y a que 24 heures dans une journée, mais on peut commencer par la fin, donc par The Marvels, la suite de Captain Marvel qu'on a tous rattrapé. Je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'était pas foufou, mais que c'était pas aussi mauvais que ce qu'on redoutait. T'en penses quoi, toi, Alex ?
Ouais, ben moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, The Marvel. Non, pas mal pour un Marvel, hein, évidemment, parce qu'il faut quand même remettre tout dans son contexte avec cet univers. Mais en fait, j'ai bien aimé le fait que l'histoire soit, on va dire, très resserrée sur quelques points. Il y a la dynamique entre les trois héroïnes. Voilà, t'as Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau qui commencent qui se rencontrent et qui ensuite commencent à former une petite équipe. Voilà, il y a le bon dynamisme, la bonne énergie de Miss Marvel. Il y a Captain Marvel qui est là pour mener le groupe, on va dire. Et puis il y a Monica Rambeau qui manque un peu de place, mais c'est pas si mal, je trouve. Il y a une belle dynamique dans les chorégraphies, dans les scènes. Enfin, c'est pas révolutionnaire, mais quand on change d'endroit en fonction de leur permutation, on va dire, de place et de pouvoir voir. Et je trouvais ça pas si mal, voilà, l'histoire est très basique, mais comme ça dure 1h30, au moins, on se fait
1h45,
pas...
générique inclus.
Ouais, mais voilà, mais du coup, comme le générique dure 25 minutes dans un Marvel, on connaît hein, les épisodes de What If qui durent 9 minutes sur le papier, en fait, ça dure 4 minutes, donc... Non, non, mais du coup, j'ai trouvé que c'était pas si mal.
Ok. Et toi, Antoine ?
Moi, je suis un peu pareil. En fait, je pense que tout le monde attendait tellement le film avec des torches et des fourches que moi, justement, la durée est vraiment l'élément central du fait que j'ai pas détesté le film. Parce que je pense qu'on est tellement saoulé des codes de Marvel qui semblent se répéter de film en film que là, je trouve ça assez rafraîchissant presque, en fait, que le film, en 5 minutes top chrono, il t'a mis l'élément déclencheur et ça démarre, en fait. Et tout de suite, t'es avec les persos, tu les retrouves et on te fait très vite de l'exposition et en fait, tout de suite, ils sont embarqués dans l'aventure. Et pour ça, je trouve que du coup, le film a le mérite d'être assez efficace, même si du coup, il réinvente clairement pas la roue. Mais je trouve pas ça moins bien réalisé que d'autres, je trouve pas ça plus poussif que d'autres. Je trouve même que du coup, comme il va vite sur les passages obligés, dans les quelques moments où le film doit un peu lâcher la bride, notamment sur cette planète comédie musicale, bah, je trouve que le film va un peu au bout de sa logique et amuse un peu plus que dans des trucs où des fois Marvel pose une vanne pour un peu l'abandonner en cours de route. Donc clairement pas une grande réussite. Je pense en plus que Captain Marvel prouve que c'est toujours un personnage qui est très mal traité par le MCU parce qu'elle est pas très intéressante, elle est à bout d'un peu tout le temps et elle est pas très travaillée. Là, c'est clairement Miss Marvel, comme tu le disais, qui met un peu la dynamique dans le récit, donc c'est ça qui m'amuse plus. Mais voilà, par rapport à la catastrophe attendue comme étant peut-être l'un des pires films Marvel, je trouve qu'on en est quand même loin par rapport à d'autres. Et toi, Déborah, du coup, t'en as pensé quoi ?
Moi, clairement, j'ai l'impression que quand on est sorti de la projection presse, j'étais la plus éteinte de nous tous. C'est vraiment, j'avais tellement rien ressenti devant ce film que je me suis demandé vraiment s'il avait pas réellement aspiré mon âme et que j'étais pas sortie de la salle genre sans âme, parce que je savais juste pas quoi penser de ce film. C'était vraiment la médiocrité parfaite, c'est-à-dire vraiment le produit moyen qui me fait ni chaud ni froid. En y repensant un petit peu, ou plutôt genre en comparant avec les Ant-Man 3 et compagnie, c'est vrai que je reconnais que déjà le fait que le film soit plus court que les autres, bah, il avait clairement pas besoin d'être plus long et genre Dieu merci, il est quand même assez ramassé. La dynamique des personnages, des trois héroïnes, c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Après, je pense que c'est vraiment un problème un petit peu plus global que j'ai avec les films Marvel, qui je ne m'intéresse plus en fait à cet univers que je trouve complètement distendu. J'arrive plus à m'intéresser aux films en eux-mêmes sans en fait aller forcément chercher l'objet de comparaison, sans jouer les comparaisons, ouais. En fait, de dire bah en fait si tu compares à ce film c'est moins bien, si tu compares à celui-ci, j'arrive plus en fait. Il va falloir que je me rééduque à considérer un film Marvel comme un film à part entière. Ça va commencer avec The Marvels, j'entame une thérapie là dans pas très longtemps.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je trouve que d'ailleurs pour nous à écran large c'est devenu vraiment une grosse problématique que moi j'avais un peu évoquée en parlant de The Marvels, parce que en fait t'as l'impression que Marvel est tellement devenu un vase clos que tu peux plus vraiment... je veux pas dire que Marvel n'est plus du cinéma, parce que je vais pas relancer un débat à la Scorsese, mais l'idée c'est plus que effectivement t'as cet objet de comparaison, en fait t'as une médiane Marvel et à partir de là c'est est-ce que c'est au-dessus en dessous de la médiane. Donc si t'es James Gunn et que tu fais les Gardiens de la Galaxie, a priori c'est au-dessus, mais dans d'autres cas comme là, est-ce que t'es pire que Captain Marvel, est-ce que t'es mieux, est-ce que t'es mieux qu'Ant-Man 3 ou pas, enfin, et du coup en fait t'as l'impression que maintenant on se contente juste de poser les films sur cette médiane un peu du médiocre qui est un peu tristoun quand même.
Ouais, voilà, où un peu tout se ressemble. J'ai parfois un peu l'impression de goûter plein de gâteaux industriels, plein de cookies industriels, et essayer de les classer les uns par rapport aux autres, alors que globalement bah, c'est les mêmes, quoi. J'ai le même goût en bouche. J'ai vraiment la même sensation avec Marvel. Bon, en tout cas, tous les trois, on est d'accord pour dire que c'est pas foufou, mais c'est pas le pire Marvel. D'ailleurs, pour vous, non. C'est quoi les pires Marvel ?
Ah, moi, c'est Ant-Man 2. Je pense que ça reste vraiment Ant-Man 2. En fait, Ant-Man 2, je crois que j'étais rarement autant sorti exaspéré d'une séance de cinéma avec la sensation qu'on m'avait volé mon argent pour un film qui n'existe que pour sa scène post-générique et qui n'a tellement rien d'autre à offrir tout du long. Parce que tu vois, j'aime déjà pas trop le premier Ant-Man parce que je fais partie de ces gens qui évidemment se disent ça aurait été bien mieux si Edgar Wright l'avait fait. Mais le 2, il y a tellement zéro idée sur le traitement de comment tu traites justement les changements de taille, et à part la scène dans la cuisine avec la guêpe, mais qui dure 30 secondes.
Ah oui, avec la salière géante.
Avec
là.
La salière géante et le couteau qui passe à côté d'elle et tout ça. T'as tellement zéro idée tout le long du film. Que, enfin, tu vois, j'ai oublié le film. C'est vraiment d'ailleurs un des rares Marvel que j'ai pas revu. Il y en a beaucoup que je me remate, même pour me remettre un peu la mémoire en place. Là, vraiment, celui-là, mais je l'ai tellement skippé parce qu'il n'existe que pour sa scène post-générique pour teaser Endgame après.
Oui, c'est vrai que la scène post-générique, moi aussi, je l'attendais beaucoup avec cette fourmi qui joue de la batterie. J'en ai des énormes souvenirs. C'est vrai que moi aussi, je trouve que ça a relevé le film un tout petit peu. Non, non, mais moi, en vrai, j'ai pas trop de haine pour Ant-Man et la Guêpe. Donc, j'avoue que bon, je suis peut-être un peu le seul à aimer. En fait, c'est pas que j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime, attention. Mais je le trouve pas si pire que ça. Il n'y a aucune inventivité, c'est sûr, dans la mise en scène, etc. Mais je pense que c'est celui qui a une des méchantes les plus intéressantes dans l'univers de Marvel. Et c'est déjà bien quand on compare. Bah, Ghost a un truc pas inintéressant, ouais.
Ok, d'accord.
Ouais, elle est pas inintéressante. En fait, elle a un parcours qui est pas inintéressant et elle pourrait être mieux développée comme dans n'importe quel film Marvel. Contrairement, bah, un peu comme la méchante de The Marvels, en fait, qui est Darben, qui est pas inintéressante sur le papier. C'est juste qu'en fait, ils en font pas grand chose. Elle devient juste.
En fait, maintenant je suis méchante, oui!
Et en mode, bon bah ok. Bah,
avec l'accent du sud comme voilà, ça.
Bien sûr, elle pourrait parler comme ça aussi. Mais non, mais du coup, bon, elle ne sert pas à grand chose. Et puis alors, la fin de cette méchante, c'est terrible quoi. C'est vraiment expédié comme ça dans The Marvels. Et alors que dans Ant-Man 2, c'est pas si mal, je trouve. Mais non, pour moi, le pire, c'est Thor 4, hein, quand même. La belle, la bonne grosse surprise de Taika Waititi, hein, qui nous a. Enfin, une bonne surprise, je pense que c'est une bonne grosse merde. Qui nous a sorti tout simplement quand il y a des chèvres qui débarquent, alors là on est oh là là trop bien qu'est-ce que c'est drôle, oh là là, des chèvres qui crient, oh là là,
c'est vraiment les mêmes des années 2010,
c'est vraiment genre ouh. Et puis après vraiment les en fait juste la dynamique Thor ne fonctionne plus avec moi. Je comprends pas l'humour de Taika Waititi. Je trouve ça d'une lourdeur, mais c'est interminable dans Thor 4 pour moi. C'est vraiment le pire. Sachant que pourtant, ils avaient un méchant pas inintéressant, encore une fois, avec Gore, parce que la présentation est hyper efficace, c'est très rapide. L'intro, ouais. Tu te dis, ok, on peut peut-être partir dans quelque chose de pas idiot, avec le mec qui tue un dieu, et ensuite, voilà, il est là pour...
Pour massacrer
les dieux, quoi, le massacreur de dieux, je sais plus comment ça s'appelle, le boucher des dieux. Voilà. Et en fait, bah non, après, c'est juste un mec qui se promène sur une planète grise et d'un moment donné, c'est noir et blanc, tu sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils avaient plus de couleurs à ce moment-là. Le budget était dépassé sur des effets spéciaux non terminés, donc ils avaient plus les données Technicolor, alors ils étaient en galère.
J'ai revu des scènes et la scène où Thor retrouve Jane, du coup, tu vois, dans le New Asgard qui est attaqué par les monstres, et il y a vraiment des incrustes. Il y a un moment où Thor, comme il est recouvert de CG à ce moment-là, en fait tu vois qu'il phase un peu avec le décor, qu'en fait clairement il est mal incrusté et qu'il bouge par rapport au fond vert, c'est dégueulasse. Et tu te dis, mais c'est pas possible pour un film qui a coûté 250 millions de dollars ils aient pas pu mieux finir ce truc là et ou même que le réal, enfin du coup Waititi ou Kevin Feige soit dit non mais ça passe, tu sais, c'est genre on le valide ça,
ouais,
tranquille.
Mais le pire c'est qu'en plus donc t'as aussi Nick Cassidy sans tête, hein, à un moment donné là qui débarque l'enfant là qui vient parler pour dire
ouais on est pas ici lol,
et après ils l'ont corrigé apparemment quand tu vois la correction, tu fais heureusement que vous l'avez corrigé. Alors là on voit la différence, là on voit ça, c'est du grand effet spéciaux, hein.
Ah, c'est comme les corrections sur She-Hulk au bout d'un moment quand ils faisaient les comparatifs et que c'était vraiment gênant parce que t'es là genre mais il y a un petit peu vers l'arrêt du nez où ça change un micro chouïa, mais sinon c'est exactement la même merde des deux côtés.
Ouais.
Sinon non, je suis clairement d'accord avec vous, enfin il y a encore Ant-Man 2 avec le recul, peut-être que je serai un peu plus clément de Thor 4, je peux pas, genre moi un film qui se fout ouvertement de ma gueule comme ça pendant deux heures, ça me fait pas rire. Donc là je trouve que c'était un énorme gâchis parce que je fais franchement partie des personnes qui aiment premier degré Ragnarok, qui passe un bon moment devant, donc ça veut vraiment dire que je suis pas le public le plus compliqué non plus. Mais là, c'est juste du gros foutage de gueule. Et sinon, il y en a un qui a pas été cité, et genre ça m'étonne un peu, mais Ant-Man 3 ?
Bah oui. En fait, c'est une évidence. C'est c'est comme les gens qui sont en Ligue 1 actuellement, c'est qui le dernier, c'est Lyon, bah tu sais, ouais, c'est tout.
Non mais pas de référence foot ici, s'il te plaît.
Ça va créer de la merde ça. Mais en fait ce qui est assez révélateur, c'est que là tu vois, à part Ant-Man 2, finalement on cite quand même beaucoup de films qui sont très récents chez Marvel, enfin phase 4, phase 5.
On n'est plus à citer les Thor 2, l'incroyable Hulk, vraiment en tout bas de classement parce que on les a tous réévalués à la hausse avec les derniers films qui sont
moi,
sortis.
J'avoue,
en fait.
Mais moi j'ai jamais trop compris la haine viscérale des gens pour Thor 2. Que je trouvais, tu vois, c'est vraiment l'épisode. Bah, en fait, tu vois, on revient à The Marvels, tu vois, épisode très médiocre, très moyen, mais pas déplaisant à suivre en fait. Alors que j'ai aucun plaisir à suivre Ant-Man 3 ou Thor 4 ou Ant-Man 2. Et je trouve que, franchement, maintenant, plus le temps passe, plus je dis, franchement, Thor 2, je vais pas dire sous-estimé, on va pas déconner, mais si tu me mets un flingue sur la tempe, je préfère largement me remater Thor 2 que de mater Thor 4 ou Ant-Man 3. De très très loin.
Ok, bon, on est quand même d'accord pour dire que The Marvels est presque avec énormément de guillemets une bonne surprise, parce que vu l'état pitoyable, on peut le dire, dans lequel est le MCU depuis Endgame, on s'attendait vraiment à pire. Parce que je pense qu'il y a quand même, autant y aller et mettre les pieds dans le plat, la saga du multivers, donc celle qui a remplacé la saga de l'infini, est-ce qu'on y comprend quelque chose? Parce que moi non, personnellement.
Mais...
est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre surtout en fait, c'est ça la question. C'est que en fait le, je pense que c'est pas extrêmement compliqué de comprendre ce qu'ils veulent faire, même si en même temps on sait pas trop ce qu'ils veulent faire, donc voilà. Mais en fait le problème c'est qu'il y a a priori le méchant c'est Kang, mais c'est un peu la merde. Mais le problème c'est que ils ont quand même fait Black Widow. Bon bah Black Widow c'était juste histoire de, voilà. Ensuite il y a eu Shang-Chi. Alors moi j'ai pas compris qui était le méchant dans Shang-Chi, puisqu'en fait bah, il est plus là de toute façon.
Bah c'est le papa, oui.
Oui, mais du coup, il est plus après, là.
Après, c'était plus l'idée de faire de l'origin story pour représenter les personnages et ensuite les inclure dans cette question de multivers. Mais là où, effectivement, en fait, je pense que là où Marvel a vraiment fait une grossière erreur, c'est que sur les premiers films, avant même de savoir trop si c'était possible de créer les Avengers, finalement, c'était de se dire on fait des origin story des personnages. Une fois que c'était un peu posé, il n'y a que Captain America, où c'était assez logique qu'il fallait introduire Captain America dans le passé pour le ramener dans le présent avec ce truc du infini congelé machin pour justifier les Avengers. Mais tu pensais aux personnages et à leurs intros avant de penser au grand plan qu'allait devenir la question des pierres d'infinité et qui allait amener Thanos, même si tu... parce qu'au final, bon, certes, on t'introduit Thanos dans Avengers 1, mais ça restait très flou, je pense, même dans leur tête à ce moment-là. Là où, en fait, tout de suite, on a lancé la saga du multivers en disant ok, donc il y a le multivers, c'est un truc acté, en sachant qu'ils nous ont baisé là-dessus d'ailleurs, parce qu'ils ont terminé la saga de l'infini, techniquement pas avec Endgame, mais avec Far From Home.
Oui, qui te teasait le truc du multivers.
Il y a le multivers, mais en fait, non, parce que Mysterio, il ment, c'est du bullshit. Et donc, t'étais un peu là à dire, ok, d'accord, donc vous voulez faire quoi avec tout ça? Et là, le problème, c'est que d'un côté, ils veulent t'introduire des nouveaux personnages qui n'ont a priori rien à voir avec cette menace-là sur le moment, donc Shang-Chi en est un bon exemple, mais en même temps il faut bien que là ils amènent ce renouveau des personnages, y compris pour ceux qu'on connaît déjà comme Doctor Strange, et en fait ils savent clairement pas où ils vont avec ce truc là en fait.
C'est sûr que quand tu regardes par rapport à la saga de l'infini, où bon bah on te dit qu'il y a un gros méchant, il cherche des gros cailloux surpuissants pour tous les mettre sur un gant et dégommer tout le monde, ça va. Faut pas avoir le QI le plus élevé pour comprendre où on va avec ça. Bon, bah, chaque héros ou groupe de héros est rattaché à une pierre, tout ça, jusqu'à Infinity War et ensuite Endgame. C'était quand même un déroulé assez simple, pour pas dire simpliste, mais en tout cas qui fonctionnait bien. Mmh. Alors que là, enfin, vous avez compris, vous, là, à l'heure actuelle, où il en est le multivers? Parce que j'ai l'impression que ça s'est ouvert avec la première saison de Loki.
Oui, c'est ça.
Après, il y a eu Doctor Strange et il y a eu genre un truc poreux où du coup, il y a des méchants qui sont arrivés et des héros, mais qu'à la fin, le multivers, au final, il l'a refermé, il a rebouché les trous, donc c'est bon, c'est réglé.
Oui, mais Spider-Man No Way Home, non, aussi.
Oui, mais à la fin de No Way Home, c'est rebouché.
Il referme le trou.
C'est pas vraiment qu'il referme le trou, c'est qu'il supprime tout ce qu'a fait Spider-Man. Donc en fait...
Oui, mais sinon, après, il y a eu Loki saison 2.
En fait, mais c'est plus la question du... On sait que le multivers existe, mais pour l'instant, il n'y a pas d'interaction au-delà d'un seul film ou d'une seule série, puisque effectivement, Loki ouvre le multivers sur la fin de saison 1 pour passer la saison 2 complète, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est horrible, à essayer de refermer ou de corriger les erreurs du passé qui fait que maintenant, spoilers, mais Loki prend la place de Kang, plus ou moins en fait. Enfin, c'est d'ailleurs c'est pas très clair.
C'est pas Kang, c'est celui qui demeure.
C'est celui qui demeure.
Comprends-tu que c'est le même acteur, mais c'est pas le même personnage? Parce que comme c'est assez simple.
C'est un des variants de Kang. C'est un des variants de Kang.
Oui, mais c'est pas tout à fait, tu vois, c'est pas Kang.
C'est pas Kang le conquérant. Pareil.
Mais la fin de la saison 1 de Loki, c'était quand même assez clair. On nous disait, voilà, il y a celui qui demeure, c'est un variant de Kang, et il a fait en sorte que le multivers n'existe pas parce qu'il savait que sinon ça allait être la guerre multiverselle et qu'il y a tous ces variants qui allaient débarquer. Donc du coup, il a fait en sorte que ces variants ils soient contenus dans le flux temporel unique.
Unique, oui, c'est ça.
Ouais, je crois que ça change de nom selon si c'est traduit machin. Et à la fin, bon bah Sylvie, elle tue celui qui demeure, explosion du multivers, il y a Kang qui est là, enfin ça paraissait quand même assez tout tracé, et c'est pour ça que le premier épisode de la saison 2 de Loki, ce rétro-pédalage cosmique de l'enfer, j'ai tellement pas compris. Ouais, enfin je me suis dit, bah en fait ouais, la série en fait est allée beaucoup trop vite par rapport au film et à ce que les films ont eu le temps de construire, du coup bah faut ralentir, et donc du coup tu rétro-pédales, et tu fais des épisodes de vide, où concrètement il se passe quasiment rien, ou dès qu'il se passe un truc c'est contrecarré ou annulé à la fin même de l'épisode, ce qui fait que là actuellement je crois que de ce que j'ai compris aussi, bah Loki est le nouveau celui qui demeure, mais sauf que lui il est pas en mode flux temporel unique, lui il est en mode multivers de
toutes
tous les côtés,
toutes les branches sont ouvertes, mais
parce qu'il est contre les génocides,
mais est-ce que du coup Kang peut débarquer quand même, c'est pas très clair.
Non, parce que du coup on nous disait que Victor Timely, donc le tout premier variant connu des Kang et compagnie, bah, il n'est pas devenu un variant, non. Il n'y a pas un truc comme ça.
Oui, mais comme c'est un multivers, s'il est mort dans un univers, il n'est pas mort dans les autres, non?
Oui, mais je crois que tout démarrait de lui. Ouais, voilà. Voilà.
J'allais te dire, c'est un peu compliqué.
Et tu te poses une question, d'un
Kevin,
coup, tu t'en poses 10
autres.
Je ne suis
pas sûr qu'il soit très à l'affût de tout. Hein.
Non, parce que tu vois, il y a quand même aussi... Enfin, le multivers est quand même quelque chose qui s'est aussi répandu dans la pop culture. C'était très présent dans les comics auparavant. Mais en fait, là, Marvel arrive, mais Rick et Morty était déjà passé par là. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'ils soient allés chercher des scénaristes de Rick et Morty assez tardivement chez Marvel. Et puis, il y a les Spider-Man de Sony, enfin, les Spider-Verse, pardon, qui, eux, ont quand même posé des enjeux très clairs sur le fond. En fait, c'est plus... Si tu as un fonctionnement qui est clair de comment fonctionne ton multivers, ça va. Et les Spider-Verse, je pense que même pour des gens qui n'ont jamais bité ce qu'était un multivers... c'est assez facilement cohérent, en fait, et compréhensible.
Oui, c'est très pédagogue dans la façon dont c'est expliqué.
Voilà. Et t'as des règles, t'as des trucs édictés, mais c'est simple à piger. Là, non seulement, en fait, pour l'instant, ils ont posé beaucoup de trucs, mais sans que les choses ne se relient entre elles, donc tu sais pas trop où ça va. Mmh. Là où t'as raison, c'est que les pierres d'infinité, quand bien même elles étaient évidemment séparées au départ, tu sentais bien que bah, si t'avais croisé une pierre d'infinité dans tel film et une autre dans l'autre film, c'est qu'au bout d'un moment, ça allait se recouper, en fait. Quand bien même les intrigues n'avaient rien à voir et les films étaient séparés, mais c'était simple de poser des MacGuffins différents qui allaient regrouper les films entre eux au bout d'un moment. Là, en fait, t'es sur un concept qui est vague et le seul élément tangible pour le relier, c'est soi-disant le méchant, là où Thanos n'était qu'une menace lointaine qui arrivait au fur et à mesure. Et une fois qu'elle arrive, t'as compris la dangerosité. Et là, en fait, Kang, on essaie de te le montrer comme étant dangereux avant même qu'il ne le soit réellement.
Oui, mais en plus, surtout, je trouve, c'est que depuis le début de la phase 4, avec Black Widow, c'est que t'as plein de méchants qui ont été installés, pas forcément morts. T'as Kang, on va dire, à partir d'un Ant-Man, voire à la fin de Loki, on va dire, même si c'est pas vraiment lui, mais ok. T'as Arishem, là, le Céleste, dans Eternals, qui vient quand même débarquer et il vient récupérer quelqu'un. Des gens qui le voient. Hein. Ils sont dans Central Park ou je ne sais où. Là, non, ils sont à San Francisco. Ils sont sur, je ne sais plus sur quel but, une colline dans une ville américaine. Là, il attrape la Gemma Chan, non, je crois. Et,
La plupart, là, ils vont dans l'espace avec. La plupart des Éternels se font choper, non?
Ah non, je crois. Non, parce que je crois que c'est Gemma Chan, donc je ne sais plus comment s'appelle son personnage. Parce qu'elle discute avec Kit Harington et il est censé lui révéler qu'en fait, lui, il est le White, je ne sais pas quoi. Et qu'en fait, parce qu'il connaît maintenant un peu grâce à son épée qu'on verra dans le scène post-générique après, donc bon, ça n'a pas trop de sens. Mais why not? Donc il veut lui dire un truc et elle se fait choper. Et pendant ce temps, en fait, les autres, ils sont partis ailleurs pour répondre à la vérité aux autres Éternels. Parce que le Céleste, justement, Arishem leur avait menti depuis le début. Voilà. Donc il y a ça qui est là. Donc j'ai hâte qu'il revienne, lui, pour revenir récupérer des gens avec sa main. Ensuite, il y a Zeus, quand même, hein, qui est là, qui est toujours vivant.
Oui, et qui a introduit Hercule dans la scène de Thor 4, effectivement.
Donc t'es Hercule, d'accord, très bien. Donc on parlait aussi de Shang-Chi. Shang-Chi, il y a Jia Ling à la fin.
Qui revient
et qui dit en fait moi j'ai d'autres dessins que Shang-Chi et du coup elle va faire quelque chose
de ça.
Voilà. Et puis le seul qui s'est un peu sorti de ça, c'est le gardien de la galaxie, puisque les maîtres d'évolution est mort.
Oui, voilà.
Mais Star-Lord va revenir. Alors je sais pas où il va revenir puisque les gardiens sont finis, mais en même temps un peu teasé à la fin, mais sans lui, mais voilà. Bon, bref, en fait, il y a tellement de trucs qui sont teasés tout le temps dans cet univers depuis le début, comme Black Panther d'ailleurs. Un Namor, il est mort, il est pas mort, mais il est devenu plus ou moins gentil avec Black Panther, l'univers de Wakanda. Donc t'es en mode, bon, d'accord, why not, encore un perso qui débarque. Voilà, donc c'est un peu chiant, en fait, l'impression qu'il y a des personnages partout, mais que pour l'instant il y a aucun rapport. Je vois pas comment le Kang du coup est mort, mais je vois pas comment Captain Marvel va réussir à aller voir Namor, un de ces quatre, et puis ensuite Zeus il va aller rencontrer Arishem. Enfin, il y a aucun sens, quoi. Je comprends rien de ce qui se passe là. Il y a eu 10 films, il y en a aucun qui est lié. Aucun.
C'est vrai.
Aucun, oui. Qui est lié. Il y a eu des séries aux alentours. Bon, il y a eu Wanda qui est un peu liée à Doctor Strange, forcément. Il y a Falcon qui va sans doute être lié avec Captain America 4 quand il sortira. Voilà. Il y a Loki du coup qui était un peu lié avec le reste aussi, parce qu'il englobe beaucoup de choses. Il y a Hawkeye qui est un peu lié avec Black Widow. Parce qu'il y a aussi elle. Il y a aussi Valentina là. Bon, alors on sait pas ce qu'elle. Jouée par Julielle Louis-Dreyfus, on sait pas ce qu'elle est venue faire là-dedans. Mais. Elle est là, donc elle est aussi une méchante théoriquement. Et puis après, il y a aussi dans Daredevil, il y a le Kaïd qui est de retour. Hein. Alors c'est aussi un autre méchant.
Ouais.
C'est un autre méchant.
Ça.
Il est là. Très bien. Mais ouais. Il y a beaucoup de méchants, dis donc. Hein.
Wow.
Mais c'est vrai, des gens qui vont a priori pas mener à grand chose, si ce n'est. En fait, il faudrait que les personnages principaux là, qu'on nous a introduits aient des suites.
Bah oui.
Comme Iron Man en a eu, comme Captain America en a eu, et des trucs comme ça, où Hydra était une menace quand même sur l'ensemble des trois films, en fait. Ça créait un arc. Ce que là, a priori, n'est pas le cas pour. Enfin, Shang-Chi aurait besoin d'un arc sur trois films, hein, mais pour l'instant, c'est pas prévu, donc c'est compliqué.
Et pour revenir donc normalement au point, au centre névralgique de tout ça qui est censé être le multivers, bah, je trouve que The Marvel c'était un bon cas d'école là-dessus où bah, clairement le multivers dans le film c'est abordé, mais Alex tu me disais l'inverse, mais moi j'ai vraiment pas l'impression que le mot multivers soit prononcé une seule fois.
Alors moi j'ai l'impression que Monica Rambeau le dit juste avant d'aller...
genre une fois quoi.
Voilà,
ouais, bon, bah, voilà. Il faut pas cligner des yeux sinon tu joues plein faux.
C'est pas une menace, enfin c'est pas quelque chose qui est vraiment important dans le film en fait. De toute façon,
mais pourtant la fin, bah, tu comprends bien que même si t'es dans l'espace tout vide avec un pauvre trou dans le ciel, bah, en fait ce qui est en train de se passer c'est une incursion, donc techniquement quelque chose qu'on nous a dit qui était gravissime, c'est-à-dire quand même deux univers qui se percutent et donc se font très très mal l'un l'autre.
Mais t'as pas compris que quand ça s'est fait ça c'est le multivers ? Quand il y a un peu de violet qui débarque dans le ciel, c'est le multivers.
Mais genre, le truc le moins spectaculaire.
C'est comme ça, genre, ils n'avaient pas d'autres couleurs. Ils ont dit, bon, si on met un peu de violet dans l'espace ou dans des trous qui se forment, c'est le multivers, les gars.
Et donc, genre, on nous dit, voilà, t'as Monica Rambeau, elle passe à travers. Donc, visiblement, voilà, le multivers, c'est vraiment aussi poreux que ça. Et surtout, normalement, on nous vend vraiment la fin d'un univers, genre vraiment quelque chose qui est gravissime, qui est ultra spectaculaire. Surtout d'un point de vue visuel. Et là, c'est vide. Je crois qu'il y a trois éclairs, un peu de lumière, et c'est tout. Oui, mais... Et donc, c'est pour ça que je me posais la question de... Mais à quel point le film a assumé le concept de multivers ? À quel point, genre, c'était quelque chose qui était totalement présent et assumé dans le scénario, ou c'est vraiment un caillou dans la chaussure qu'ils ont dû se traîner ?
Je pense que, de toute façon, The Marvel est assez révélateur d'un truc plus général. C'est que, comme c'est un film, et on y reviendra sans doute, mais qui a été pas mal retravaillé, donc qui est pas du tout... dans le planning là où il devait être à la base, en fait finalement ils l'ont complètement décorrélé de quasiment tous les enjeux de Marvel à l'heure actuelle, c'est-à-dire que t'as le multivers qui est quasiment pas traité, et l'autre enjeu majeur de The Marvels c'est la connexion avec donc Saber, donc l'espèce de nouveau shield avec la base spatiale où Nick Fury travaille avec des humains et des Skrulls en parallèle, et qui est censé du coup être connecté à Secret Invasion, sauf que c'est pas connecté du tout à Secret Invasion, c'est même très compliqué de savoir si ça se passe chronologiquement avant ou après Secret Invasion, puisqu'ils ne font jamais référence aux événements de la série, alors que ils sauvent des Skrulls à un moment donné et que c'est censé être important.
Ils font une petite référence, parce qu'ils parlent du traité sur les Skrulls, sur la Terre, machin, et c'est la fin de Secret Invasion.
Ah, d'accord, ok.
Mais du coup, ça se passe après.
Mais tu vois, c'est censé. Secret Invasion termine quand même dans le drame absolu. Oui, et là, Nick Fury débarque, il refait des vannes, quoi. Donc tu fais, ok, d'accord.
Et puis surtout, du coup, il y a eu un problème avec des Skrulls. Mais dans The Marvels, du coup, il y a un autre groupe de réfugiés de Skrulls qui débarquent sur Terre.
c'est pas vraiment la Terre, c'est New Asgard. C'est pas tout à fait pareil.
Pas tout à fait pareil.
C'est un peu à part, tu vois. Donc ça va.
Donc, au final, moi, le multivers, je le vois vraiment comme non seulement le concept de pop culture un petit peu qui était sympa à ramener, mais surtout le moyen de faire beaucoup de fanservice. Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2, même What If, je le vois surtout comme d'immenses exercices de fanservice. Même au final, la scène post-générique de The Marvels avec les X-Men, enfin, c'est quoi à part du fanservice.
Oui, c'est ça. Qui est censé, en plus, te ramener, enfin, te connecter, en fait, aussi pour Marvel, faire un truc méta de le public connaisseur est censé être conscient que il y a un problème aussi de droits chez Marvel, et donc que les droits des X-Men appartenaient à Fox, et que ça y est, maintenant, Marvel les a récupérés, maintenant que Disney a racheté Fox. Mais donc, il y a quand même ce besoin de comment tu réintroduis des personnages qui ont existé auparavant dans leur coin, dans l'univers global, ce qui va être aussi le cas de Deadpool. Et bon, là, tu sens que The Marvels est là pour un peu sauver les meubles et t'introduire assez péniblement ou de créer de l'excitation de manière très artificielle sur ça, alors que par le passé, ils n'avaient pas tellement besoin de ça, en fait.
Ouais, en fait, ce que tu remarques un peu depuis le début de la phase 4, donc du multivers, de la multivers saga, là, la saga multivers, c'est qu'en fait, quand je pense que le problème du MCU, c'est qu'il
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Il est en train de se refermer sur lui-même vis-à-vis de juste de son histoire. Avant, tu pouvais regarder, Iron Man 3, ça pouvait te faire un film, même si tu connais rien à l'univers Marvel, ça pouvait être un film totalement cohérent, que tu pouvais comprendre sans avoir l'avant et l'après. Même Infinity War, hein, si t'avais pas tout vu avant, c'était quand même assez compréhensible qu'il y avait un méchant qui arrivait vraiment et qui lui manquait que quelques pierres pour réussir son dessin, quoi. Et ben là, tu suis des aventures, mais en fait, comme tout est un peu lié, enfin avec un petit terme et tout, impression qu'on comprend pas trop. Je suis pas sûr que Doctor Strange, même si Doctor Strange, ils ont quand même pas mal.
T'as le petit résumé quand même.
Voilà, il y a le petit résumé, mais même.
Voilà, la Wanda, tu as fait ça dans les événements de WandaVision. Alors c'est bon, maintenant on peut redémarrer le film.
Voilà, c'est ça. Le pire, c'est dans The Marvels où quand même elle a un flashback de tout Captain Marvel. C'est incroyable. C'est ces gens qui ont des flashbacks du film d'avant.
La séquence
c'est
de rêve partagée pour créer des émotions, mais surtout pour bien te rappeler. Il s'est passé ça dans Miss Marvel, s'est passé ça dans WandaVision, c'est incroyable.
Et surtout, pour boucher les trous entre le 1 et le 2, genre, ah oui, vous savez pas trop ce qui est arrivé à le personnage, bah voilà, allez hop, on le balance dans un flashback.
Bah c'est nécessaire, mais c'est tellement mal fait que c'est tragique, quoi, pour les films. Et je pense que c'est un peu le problème en ce moment, c'est que je pense que déjà ils ont du mal à convaincre un peu les fans qui étaient déjà là de base, et en plus bah ça va être difficile d'aller chercher de nouveaux fans si on leur donne aussi peu de clés pour comprendre ce qui se passe en fait.
Ce qui est d'ailleurs, il faut en reparler, parce que le seul gros succès que Marvel a eu ces derniers temps depuis Endgame, c'est Spider-Man No Way Home. Et en fait, Spider-Man No Way Home déjà fait un truc assez bizarre, je trouve, c'est que tu sens qu'ils retconnent presque ce qu'ils ont fait avec le Spider-Man de Tom Holland pour qu'il devienne vraiment Spider-Man sans l'aide de Tony Stark et tout ce qu'ils ont plus ou moins fait de manière artificielle pour le réintroduire dans le MCU. Mais surtout, effectivement, c'était un film tellement méta qu'il est même plus seulement méta au sein de sa saga, il est méta avec d'autres sagas Spider-Man qu'il faut plus ou moins que tu connaisses, sinon le bagage émotionnel que tu es censé ressentir devant le film, c'est le néant absolu en fait. Si t'as pas d'attache au Spider-Man de Raimi ou au Amazing Spider-Man, dont il reprend les héros et les méchants, bah t'es censé ressentir quoi devant le film en fait? Donc de toute façon, le film ne repose que sur, et je pense que c'est le gros problème du multivers, sur un tel esprit de copie, que de toute façon le multivers crée un problème où les personnages deviennent plus ou moins immortels parce que leurs variants existent. Et t'en es au stade où ça devient... tu vois des personnages qui ne sont plus que des enveloppes vides qui se répondent les unes aux autres. Et ça devient à force un vrai problème, parce que les personnages, il n'y a plus d'enjeux concrets sur leur vie et sur leur mort. Si un variant meurt, bah, il peut revenir ailleurs. Donc où sont les enjeux dans ce moment-là?
Déjà le concept de variant, on peut y revenir 2 secondes. Donc ça a été introduit dans Loki. Donc on nous dit que normalement, la guerre du multivers, ce sera avec les variants de Kang. Donc, ma question est la suivante. Étant donné qu'on a vu à la fin de Ant-Man 3 le conseil des Kang et qu'ils ont quand même tous plus ou moins la gueule de Jonathan Majors qui est en train de foutre le studio dans la merde pas possible parce que ennui judiciaire et tout ça, alors que le personnage de Kang, il a été teasé pour la première fois par Deadline en septembre 2020, qui rapportait la rumeur comme quoi il allait jouer Kang le Conquérant. C'est problématique quand même, parce que
bah déjà c'est problématique quand tu vois la gueule de la scène post-gée de Ant-Man 3 qui est juste l'un des trucs les plus risibles je pense que Marvel ait jamais fait, alors que c'est censé être le truc qui, enfin ça devrait être excité comme l'annonce de Thanos pour les fans de Marvel à l'époque d'Avengers.
Là c'était,
tu vois,
vraiment genre 5 personnages comme ça qui claquent des mains, genre c'est quand même
avec
très gênant
le maquillage bleu pas mis sur toute sa peau là, sur son variant bleu, et lui, oh, On peut en parler de Jonathan Majors, mais au-delà du fait que bon, là, ça pose problème avec Marvel, parce que du coup, il est accusé notamment de violence conjugale et de plein d'autres choses sur les tournages où il est visiblement très problématique. Mais moi, je trouve qu'en plus, il le joue extrêmement mal. Enfin, c'est déjà dans Ant-Man 3, c'était le problème, c'est-à-dire que tu sentais qu'il jouait ça comme du Shakespeare. Mais alors, dans tous les films, en fait, il joue un variant de Kang avec soit une espèce de toc, mais tu sais, à la Louis de Funès, un truc super outré à chaque fois. Ou alors, là, dans Loki saison 2, le côté très posé de sa voix, là, où il met une pause entre chaque mot parce qu'il bégaye à moitié. Où tu te dis, en fait, s'il n'y a pas un truc ultra criard de personnalité et de façon de parler, c'est ça qui différencie les personnages, en fait. Et tu te dis, c'est tellement vulgaire comme façon d'approcher le truc. Et surtout, bah, ça te fait pas peur, quoi. Ça te fait rire, mais ça te fait pas peur, alors qu'il y a 10 000 Kang et que c'est censé être ça, la grosse menace du turfu, quoi.
Ouais, surtout qu'en plus, dans Loki, tu vois bien que tu peux avoir des variants qui sont bah, de sexe opposé au tien, genre opposé au tien. Ça peut être des crocodiles, ça peut être des personnages qui ont une autre couleur de peau, enfin, véritablement, qui sont pas joués par le même acteur. Donc je me demande bien comment Marvel va se dépatouiller de tout ça. Est-ce que le méchant, ça va rester Kang, mais un Kang recasté? Est-ce que ce sera un autre variant de Kang, mais qui n'aura pas la gueule de Jonathan Majors? Enfin,
bah, y a... quelle question. Non, il ouais, y, enfin, y a plusieurs pistes ou rumeurs qui s'établissent de plus en plus. C'est, d'un côté, en effet, Kang va être recasté, tout simplement, parce que c'est une possibilité que laisse l'avant... Enfin, c'est le multivers, c'est l'avantage qu'il donne, quoi, avec tous les variants. Au fond, peut-être que dans je dis n'importe quoi, mais ça se trouve, dans un an, Ant-Man 3, ils referont la scène post-générique en changeant quelques visages et ils mettront le visage d'autres personnalités qui ne sont pas Jonathan Majors, et puis ils diront oh, bah si, regardez, lol, en fait, il y a 3 ans, c'était pas le cas, mais maintenant, on s'en fout parce qu'on peut refaire les scènes post-génériques vu que c'est sur Disney+, donc on change, quoi. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils fassent ça. Et après, sinon, il y a la possibilité, apparemment, que ce soit un nouveau méchant. Potentiellement Docteur Doom.
Ouais. Dans ce cas, l'aveu voilà. D'échec ultime.
Ouais. Bah, surtout ouais. Pour l'avoir teasé aussi tôt par rapport à Thanos, tu vois, qui vraiment mettait du temps quand même à arriver, enfin, et à prendre de l'importance. Il était vraiment teasé scène post-générique très très succinctement d'Avengers en Avengers.
Bah, c'est ça le problème. En plus, surtout que Kevin Feige a teasé que le Avengers 5 s'appellerait Kang Dynasty.
Oui.
Aïe. C'est-à-dire que ça va être la Kang Dynasty sans Kang. Bah, ce serait quand même pas de chance. Voilà. Bon, après, ils peuvent changer, tu vois. Ils peuvent changer le titre. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est. Disons que, ouais, c'est peut-être un peu dommage pour eux d'avoir teasé autant de trucs, quoi.
Bon, après, là, on a beaucoup parlé des films, surtout. Mais c'est vrai que maintenant, il y a aussi un autre truc à prendre en considération. C'est que maintenant, dès qu'on parle de phase 4 chez Marvel et phase 5, ça inclut aussi maintenant les séries et tout ce qui existe sur Disney+. D'ailleurs, il n'y a pas que les séries, parce qu'il y a aussi maintenant les special presentations et d'autres trucs comme ça à la con avec Werewolf by Night et compagnie. Et est-ce que c'est pas ça, en fait, le vrai problème, d'ailleurs, de la phase 4 et 5? C'est l'arrivée de Disney+, du besoin d'alimenter ce catalogue-là, et qui est presque devenu à la fois l'envie pour Marvel de s'étendre encore plus, mais qui est presque devenu une fausse bonne idée finalement.
Bah, pour le coup, se développer sur Disney+, avec des petits contenus additionnels, qui étaient en fait un petit peu des bonbons pour faire patienter les fans entre 2 saisons, ça aurait pu être une bonne idée. Mais en 3 ans, il y a déjà eu 10 séries. C'est énorme.
Et pas les meilleurs, en plus.
Oui, voilà. Et c'est pas que des specials comme Werewolf by Night. Enfin, honnêtement, je l'ai pas vu ni la version couleur.
Bah, c'est pas mal. C'était pas
Werewolf by Night, c'est de loin ce que Marvel a fait de mieux avec les Gardiens 3 sur la phase 4 et 5. Tu vois, de très très loin, c'est le truc le plus fun. Ça dure 50 minutes. T'as pas le temps de te faire chier. Ça existe dans son coin. C'est pour ça, c'est très très cool.
Puis la série I Am Groot aussi. Non, pas du tout.
Non, mais tu vois, Werewolf by Night, t'as beau me le vendre comme un truc bien et tout, mais c'est tellement noyé dans tout un tas de trucs que j'ai pas eu la flemme. Ouais. J'ai totalement la flemme, comme j'ai eu la flemme de finir Moon Knight, parce que je devais pas écrire dessus. Ouais. Donc, clairement, au bout du 2e épisode, je me suis dit, ouais, non, c'est pas la peine. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce flux de contenu complètement inarrêtable qui peut être vraiment décourageant et déstabilisant, parce que quand même, au Comic-Con de San Diego, donc Kevin Feige en avait annoncé 5 d'un coup. Falcon, WandaVision, Loki, What If et Hawkeye. Un mois après, pour le D23, c'était 3 autres annonces. Donc Miss Marvel, She-Hulk et Moon Knight. Fin 2020, après, il y a eu du Iron Heart, Secret Invasion, Armor Wars, Groot. Plus encore au Comic-Con de 2022, Echo, Agatha Harkness, parce que oui, il y a toujours la série Agatha Harkness que j'avais oubliée.
Bientôt,
voilà, ouais. Je me suis rappelé de l'existence de ce truc en préparant la rue. Daredevil Born Again aussi.
Non, et puis tu vois, moi j'ai le souvenir quand l'arrivée de Disney Plus s'est faite. Enfin, tu vois qu'il y avait en plus, au début, nous on n'a pas eu Disney Plus tout de suite en France. Il y avait The Mandalorian quand même pour patienter. je trouvais qu'il y avait quand même un truc excitant à voir Marvel aller vers du streaming, parce que à ce moment-là, c'était le moment où explosait en plus la critique récurrente de dire mais en fait Marvel c'est de la télé, mais au cinéma, en fait, c'est de la télé qui coûte très très cher, et tu vas voir les films Marvel comme tu irais voir une série. Donc finalement, une fois que Marvel investit le format sériel, qu'est-ce que ça peut donner et à quel point ça peut les rapprocher de la dynamique originale des comics. Et sur le papier, moi je trouvais ça super excitant. Et j'avoue que, bah, comme beaucoup de gens d'ailleurs, WandaVision est de loin la série la plus intéressante, et en partie parce que c'est une vraie série télé. Donc déjà de manière très explicite, parce que le trauma de Wanda s'explicite par son rapport au sitcom d'antan, et donc elle traverse dans cet univers des esthétiques et des codes de sitcom à l'ancienne. Donc tu te dis, ah, il y a une vraie manière de mêler de la série télé avec la dynamique de Marvel, et donc sa manière de le connecter aux autres éléments de la franchise. D'ailleurs, quand ça retombe sur du Marvel classique, c'est là que ça devient un peu plus chiant. Et puis, bah, t'arrives direct après à Falcon. Et alors là, moi, je me souviens, parce que c'est moi qui en avait parlé pour Écran Large à l'époque.
Parce que t'avais envie de la regarder.
Parce que j'avais envie de la regarder, parce que je me disais, ça peut être pas mal quand même. Et je l'ai regretté très amèrement.
Est-ce que tu dis pas ça pour chaque série Marvel?
En fait, c'est ça qui t'arrive. À chaque fois, c'est moi qui m'occupe d'une série Marvel. C'est la pire de la pire à chaque fois. Et Falcon, il y avait ce truc qui est devenu récurrent chez Marvel, du truc en 6 épisodes, qui pourrait en fait très clairement être un film de 2 heures,
mais, oui.
mais qui est juste étiré pour rien. Et où tu sais d'avance où tombent les moments cruciaux du récit. Je vous renvoie pour ça à ma très bonne vidéo sur les
problèmes
des séries
Disney+.
Mais toutes les séries Marvel ont suivi ce schéma-là du 6 épisodes qui se répètent. Et à partir de là, le public s'est perdu. C'est mal produit, c'est souvent très moche et c'est très mal écrit surtout.
Puis c'est pas du contenu additionnel juste comme ça pour compléter. C'est complémentaire au film. Et c'est là où on touche vraiment au problème d'investissement du public qui... oui, ne peut pas suivre une série toutes les 3 semaines, plus aller voir les films, plus se rappeler de ce qui s'est passé dans la phase 2 avec le méchant de machin, machin, machin. C'est trop. Et là où, effectivement, WandaVision avait pour elle déjà d'être d'assez bonne facture comparée au reste, et surtout d'être la première série, donc de bénéficier de l'attrait, la nouveauté, l'engouement et tout ça. Bon, au final, quand son histoire est reprise dans c'est Doctor Strange 2, oui, voilà, c'est ça, Doctor Strange 2, qui est davantage une suite de WandaVision que de Doctor Strange, c'était pas encore très pénalisant. Mais là, avec The Marvels, on en arrive quand même au fait qu'il faut avoir suivi 2 séries pour véritablement comprendre qui sont les personnages qu'on va voir dans le film. Donc WandaVision avec Monica Rambeau, qui est en plus le personnage secondaire de WandaVision, et Miss Marvel.
Mais tu vois, je trouve ça intéressant que tu dis ça, parce que je trouve que l'argument, il se questionne un peu. Parce que finalement, tu vois, l'idée, ça serait maintenant de dire, surtout avec The Marvels, en fait, ce que les gens n'ont pas envie de faire, c'est de se sentir obligé de rattraper les séries, parce que ça voudrait dire, je fais mes devoirs pour pouvoir profiter des films à l'heure actuelle. Sauf que je trouve l'argument un peu bizarre, parce que d'un autre côté, quand Marvel n'était que des films, déjà, tu te sentais plus ou moins contraint, même quand ça t'intéressait pas forcément, de tout voir, parce que tu savais que t'en arrivais à Infinity War, à Endgame et compagnie, et qu'il fallait que tu fasses tes devoirs. Donc, dans tous les cas, Marvel a toujours été ça. Mais là, en fait, je trouve que la dynamique a changé, parce que, comme tu le dis, de toute façon, il y en a tellement partout que tu te sens noyé sous la quantité. Et comme, en plus, les séries, effectivement, sont présentées comme un format différent, mais en même temps, ça équivaut en termes d'importance et de qualité, soi-disant, alors que c'est clairement pas le cas, d'ailleurs, là, tu te sens contraint. Et c'est peut-être ça qui amène le vrai problème, c'est que, par le trop-plein de Marvel, maintenant, ça crée une dilution de l'excitation du public. Et c'est ça qui fait surtout que les gens se disent « là, je me sens contraint ». Alors qu'au final, ils l'ont toujours été par le passé. Mais là, maintenant, ça devient vraiment un sentiment d'obligation qui fait d'ailleurs surtout que le public n'est plus si captif que Marvel le croyait. Et ça, je pense que ça a été la grande erreur de Marvel, de penser que depuis Infinity War Endgame, c'est bon, ils tapaient le milliard avec Black Panther ou avec Captain Marvel, même quand les films n'étaient pas forcément terribles. C'était assuré, en fait. Les gens étaient là parce qu'ils attendaient le prochain gros événement. Mais en fait, un public comme ça, il n'est jamais vraiment captif. Et Disney Plus leur a prouvé, je pense, de la plus douloureuse des manières.
Je pense qu'en fait, juste pour nuancer, je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que le public n'est pas acquis, mais il était acquis à une chose, c'est qu'il voulait aller jusqu'à Endgame. Il n'avait qu'une envie, c'est d'aller jusqu'au bout. Et quand tu vois le score de Spider-Man Far From Home derrière, par rapport à Endgame, Captain Marvel, Infinity War ou même Black Panther juste avant, c'est pas du tout les mêmes scores. Tout de suite, ça chute. C'est pas une chute comme aujourd'hui. Mais c'est beaucoup moins. Et en vérité, en effet, c'est qu'il y a tellement de choses. Quand tu vois que dans la phase 1, il y a 6 films en 4 ans.
Ouais, c'est
6 films en 4 ans. Et la phase 2, c'est 6 films en 2 ans et la phase 3, bon, t'en as 11 en 3 ans, mais bon, les gens sont à fond, quoi. Parce qu'ils attendent Infinity War, ils attendent Endgame, et ça y est, tout est déjà placé, tu sais comment on va avancer l'univers. Maintenant, t'as, comme tu dis, on a eu 10 séries en
3 ans.
En 3 ans, même pas. Hein. Ouais, 2 ans et demi, un peu moins. Et on a eu combien ? 10 films en 2 ans aussi. Bah, c'est genre imbitable, en fait. On peut plus suivre, sachant que plus rien ne se tient vraiment, ou alors qu'il faut, comme tu dis, suivre VandaVision pour comprendre la substantifique moelle de ce qu'il y a à comprendre, d'ailleurs, hein, dans The Marvels, ou etc. Donc c'est hyper chiant, et je vois, pour avoir ma chérie qui regarde énormément les Marvel avant et qui en ratait pas un au Cinoche, maintenant, en fait, elle s'en fout, quoi. Déjà, les personnages qu'elle adorait, elles sont plus là. Donc quant à Iron Man, Captain America... Hulk qui a plus ou moins disparu, hein, quand même, et qu'en fait toutes les visages qui ont fait l'identité du MCU pendant 10 ans, hein, quasiment, ont disparu. Bah, il faut retrouver des héros et ou héroïnes aussi forts, et le problème c'est que pour l'instant ils n'existent pas. Captain Marvel, elle a eu 2 films et 3 caméos, bon bah d'accord, super, et après les autres, bah, c'est juste des gens qui sont de passage pour probablement les Avengers plus tard, mais les Avengers ils sont dans tellement longtemps qu'en fait je m'en fous.
Puis ce sera qui surtout? Les Avengers.
Ouais. Non, mais je trouve ça assez intéressant que tu dises ça parce que, enfin, tu vois, ça relève de, pour le coup, du pur ressenti qu'on a nous en tant que spectateur, en tant que personne dans la presse ciné. Mais moi, tu vois, c'est un sentiment que j'ai aussi où, y compris des potes qui étaient les plus gros lecteurs de comics et les plus gros fans du MCU et de, enfin, tu vois, tout ce qui sortait dans le domaine blockbuster. Peut-être qu'aussi parce qu'on a grandi, hein, mais c'est ces gens-là, par exemple, tu vois, qui maintenant m'envoient des textos pour me dire. Est-ce que tu as vu tel film en Projo Presse ? Est-ce que tu peux me dire si ça vaut le coup que je paye 10 balles ma place ou pas, en fait ? Et tu vois, de plus en plus, ils me disent eux-mêmes, les Marvel, ils rattrapent plus les séries, ils rattrapent plus certains des films. Tu vois, Ant-Man 3, ils m'ont dit, bah, si c'est vraiment la merde que tout le monde annonce, j'y vais pas, en fait. Et ils ont pu, alors qu'ils savent, au fond, que ça va être plus ou moins essentiel pour la suite, mais en fait, non. Ils disent, non, c'est pas grave, on arrête, quoi.
Il y a presque, ouais, ce sentiment de devoir, en fait, faire les rattrapages. Moi, c'est exactement ce que j'ai pensé, par exemple, pour Moon Knight, où je me suis dit, bon, Moon Knight, a priori, on devrait pas en parler dans les films, genre toute la mythologie autour de lui, les dieux égyptiens,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Voilà, tous les trucs des dieux égyptiens, peut-être dans Thor 4, bof, non, au final, non. Donc, je pense que je me forcerai à rattraper Moon Knight ou à lire le résumé des épisodes sur Wikipédia quand j'aurai la certitude qu'il sera à un moment quelque part cité ou impliqué dans un film. Et bah, tant que c'est pas le cas, bah, la série, je la rattraperai pas, en fait, parce que surtout qu'en plus, bon, bah, quand on aime Marvel, on n'aime pas que Marvel non plus, hein, on regarde pas que les films Marvel et que les séries Marvel sur Disney+. Donc ouais, au bout d'un moment, faut faire des choix. On peut pas tout consommer, même si Disney+ aimerait beaucoup qu'on le fasse, mais c'est pas possible.
Et ça renvoie aussi à ce que tu disais, c'est que je pense que la grande erreur qu'ils ont eue, c'est que, bah, mine de rien, en quelques années, tu prends la phase 1, ils avaient vraiment pris l'effort de structurer un corps de personnages, enfin, tu vois, des personnages centraux autour desquels elle gravitait d'autres personnages. Et là, en fait, ce qu'aurait dû faire Marvel, mais immédiatement, c'était de se dire, on a déjà des personnages établis et on veut mettre des nouveaux venus. Il faut créer au moins 3-4 persos qui vont être vraiment centraux pour l'avenir et auxquels les gens peuvent s'attacher. Quand tu dis, finalement, ma copine s'intéressait à Captain America et à Iron Man, à l'époque, enfin, tout le monde s'en battait les couilles, tu vois. Enfin, il n'y avait que Spider-Man qui était vraiment très, très établi comme personnage et les X-Men. Et en fait, si on a réussi à faire d'Iron Man et de Captain America des grands personnages chez Marvel, c'est parce que les films ont fait l'effort de structurer ça de film en film et de dire aux gens, vous devez en avoir quelque chose à faire. Et quand on arrive à Avengers, du coup, bah, c'est normal que quand tu vois Thor, Iron Man et Captain America, tu dises, ok, ils sont importants, j'en ai quelque chose à faire. Là, je ne comprends pas, tu vois, que Doctor Strange n'ait pas pris plus d'importance, alors que clairement, c'est en plus lui qui sert un peu de porte d'entrée dans le multivers, donc c'est clairement lui qui devrait avoir ce rôle-là. Côté Captain Marvel, qui là, bon, The Marvels n'aide pas, mais clairement, elle devrait avoir une importance majeure, elle aussi, maintenant qu'elle a été teasée en fin de saga de l'infini. Et par exemple, moi, je me dis, Shang-Chi devrait être l'autre personnage évident là-dedans, tu vois, c'est le nouveau venu. C'est un peu là aussi un personnage, tu vois, qui entre dans cet univers-là en n'ayant pas conscience de ses pouvoirs et qui découvre cet univers-là. C'est, tu vois, le truc idéal pour amener un nouveau venu dans l'équipe, en fait, tu vois, et amener tous ceux qui vont graviter autour. Donc il fallait qu'il y ait un corps comme ça, mais sauf que pour l'instant, bah, tous ces personnages-là n'ont qu'un film ou une série, et ça suffit clairement pas, en fait. Et là, il faut créer un truc plus récurrent de la part de Marvel, mais sans peut-être surcharger avec d'autres personnages.
Là, de toute façon, tu sens bien la scission, puisque bah, l'autre, enfin, qui n'était pas une scène peu générique, mais qui était clairement filmée et pensée comme une scène post-générique dans The Marvels où on nous annonce qu'il va y avoir la création des Young Avengers. C'est pas dit comme ça explicitement, mais bon, bah, quand t'as Kamala Khan qui va aller chercher la fille de Ant-Man et Kate Bishop pour faire son équipe de super-héros, on comprend bien que ça va être les Young Avengers. Donc en gros, tous ces petits personnages un petit peu secondaires qu'on nous a introduits pas suffisamment puissants, ce sera les Young Avengers. Et de l'autre côté, j'imagine que bah, les plus puissants, ceux qui seront en train de participer à Avengers 5 et 6, bah, ce seront les nouveaux Avengers. C'est comme ça que je l'ai compris, bah, je sais pas vous.
Bah, en fait, je sais pas si j'ai bien compris grand-chose. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, aucun des gros personnages vraiment établis, donc t'as, on va dire, Thor qui est toujours là, t'as Hawkeye qui est encore plus ou moins là.
On sait pas si Thor, il va continuer.
Thor, à la fin, c'est marqué Thor 4, c'est marqué Thor va revenir, hein, donc a priori, Thor va revenir, quoi. C'est
tout. Bah, j'avais oublié ça.
Je sais pas s'il va revenir comment, avec qui et quoi, mais il va revenir, a priori. Donc Thor est là, Ant-Man, bah, il est toujours là, a priori, hein, quand même. Et, à mon avis, après son gâteau d'anniversaire, il va toujours revenir. Hein. Donc voilà, après, t'as Captain Marvel qui est aussi là. T'as qui d'autre? Bon, bah, la Widow, elle est morte, mais t'as Florence Pugh qui est.
Young
qui
Avengers.
Est, qui va être une Young Avengers. En même temps, ça ne pourrait pas être une Young Avengers puisque c'est une Thunderbolt, lol.
Ah, donc, oui. Ah, c'est vrai qu'il y a eux aussi.
Ouais.
Oui.
Donc en fait, tu vas avoir les Suicide Squad, de Marvel. Et puis, non, mais dans les Young Avengers, de ce que j'ai compris, il va y avoir quoi? Le fils d'Hulk, hein, qu'on voit à la fin de chez Hulk.
Mon Dieu.
Le beau gosse. ensuite, tu vas y avoir Patriot. Donc Ellie
qui?
Bradley dans Falcon, un gosse qu'on voit dans Falcon et le soldat de l'hiver. Le fils du grand-père.
Ah oui!
Enfin, du coup, plutôt le petit.
Attends,
fils,
non, mais je l'ai vu cette série, donc normalement, je suis censé avoir la ref.
Oui, tu sais, ils vont voir un grand-père qui était un ancien soldat, bah,
qui était un ancien Captain America,
en fait.
Oui, le Isaiah machin.
C'est ça.
Oui, ouais,
c'est ça. Isaiah ouais. Quelque chose. Non, Isaiah Bradley.
Pas trop sur
ouais,
les
crois.
Noms.
Isaiah Bradley.
Ok, d'accord.
Je crois.
Comment tu te souviens des noms, toi?
J'ai la culture.
Il relie les news, tu sais, sur écran.
La culture du MCU, évidemment. Non, mais du coup, t'as la fille d'Ant-Man 3, donc jouée par Catherine Newton, qui a priori s'appelle Stature. Lol.
Stature.
Ensuite, dans Vandavision, t'as quand même un White Vision, hein, donc c'est a priori un bébé Vision. Hein, mais
ah, et les enfants de Wanda alors
en taille adulte.
Ils existent. Les,
bah, c'est ça, t'as aussi eux qui sont peut-être là, mais pas vraiment dans un autre multivers, puisqu'à un moment donné, ils crient et qu'elle vient les chercher. En tout cas, elle essaye. Après, t'as Toussaint aussi, hein, le nouveau T'Challa, hein, parce qu'il fallait quand même rotiser Black
Alors
Panther.
Ça, bon, ça, ils ont l'air de dire qu'ils vont pas aller
mais tu vois,
très loin avec.
Mais... Ouais, mais t'as la fille de Gore aussi qui est là. Elle saute avec.
Avec Thor à la
avec,
fin.
Avec
Thor qui est papa adoptif.
Il voilà. Y a la gamine des gardiens
la
de la Galaxie 3 aussi, non?
Mais je pense qu'il y a un truc qu'on oublie un peu.
La fille de Stark.
Il y a un truc qu'on oublie un peu là-dedans, tu vois, c'est que finalement, Marvel a toujours tâtonné. Quelles que soient les phases avant, mais leur tâtonnement dépendait aussi du succès progressif de ce qu'ils faisaient. Et jusque-là, en fait, comme ils ont été très constants sur le box-office, avant de vraiment d'exploser sur les fins de phase, et en particulier sur les derniers Avengers, ils avaient un peu ce truc-là de se dire « Bon, on tâtonne, mais on peut pas trop se planter. » Et en fait, comme ils sont ensuite sortis d'Endgame en se disant « On peut plus se planter, on peut tout faire, YOLO, on y va !» Ils ont introduit énormément de branches sans trop savoir où ils allaient avec. Et aujourd'hui, ça rend le public confus, alors que les précédentes phases avaient quand même le mérite de s'éloigner de la dynamique comics en se disant gardons quand même un centre névralgique de personnages et d'intrigues aussi qui permettent de quand même tout facilement connecter. Et l'excitation venait de là aussi d'ailleurs. Tu vois, moi je considère les Gardiens de la Galaxie 2 comme l'un de mes Marvel préférés, mais je sais que beaucoup l'aiment moins parce que c'était peu de temps avant Infinity War et que tout le monde se disait c'est le moment où tout devrait se connecter. Et là en fait tu vois des films qui te donnent des teases de connexion mais qui vont jamais très loin et au final ça reste tellement bizarre et pas clair que je pense que ce sentiment de confusion fait aussi que le public se désintéresse.
Mais même sur les attentes, en fait je me suis posé la question de aujourd'hui qu'est-ce que j'attends d'un film Marvel et j'ai l'impression qu'en fait il n'y a pas de bonne réponse. Soit il évacue totalement le truc du multivers et du coup je me dis bon bah du coup votre saga du multivers elle repose sur 3 films quoi, génial et une série, donc au final votre promesse de grand univers bah, vous n'arrivez pas à la tenir. Mais d'un autre côté, si on commence à me parler du multivers, mais genre un petit peu à tâtons, vraiment en marchant sur des œufs comme The Marvels, bah ça va pas m'aller. Et s'ils foncent et ils y vont comme Doctor Strange 2 ou No Way Home, je vais me dire, ouais, bah un truc aussi grand qui a pas de répercussions sur les autres films, c'est n'importe quoi. Donc en fait, j'ai l'impression que là, à l'heure actuelle, peu importe ce que fait Marvel avec son multivers, ça ne me conviendra pas. Donc je me dis, je suis pas la personne la plus originale du monde, donc peut-être que si je pense ça, d'autres personnes aussi doivent le penser de... Quoi qu'en fait vous fassiez avec votre multivers, bah vous avez une chance sur deux de vous casser la gueule, quoi.
Bah c'est ça. Et je pense que eux se disaient, au pire, c'est pas grave si on perd un peu le public captif qui a grandi comme nous, d'ailleurs avec les premières phases, en se disant il y a un nouveau public qui va prendre le relais, mais est-ce que ce public prend vraiment le relais? Ça, j'en suis pas certain. Et on voit en plus que Disney+ peinant à attirer les spectateurs sur la durée, au-delà des questions de qualité des programmes proposés, bah, les nouveaux personnages qui sont introduits via ces formats-là peinent aussi à intéresser, ce qui là pose notamment problème quand tu introduis ton nouveau Captain America quand même via une série, alors que du coup Captain America 4 arrive bientôt. Et là, c'est quand même des figures aussi centrales de ton univers deviennent finalement des astérisques via des séries télé, là ça pose un vrai problème. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, il y a des moments où je me dis, est-ce que c'est juste moi parce que je suis lassé? C'est normal, il n'y a plus l'attrait de la nouveauté comme auparavant. Mais je pense que ça va au-delà de ça, et à vouloir le beurre et l'argent du beurre, au bout d'un moment, bah, tu peux plus contenter personne, en fait.
C'est vrai que c'est intéressant comme question de se demander, à l'heure actuelle, les films Marvel et les séries, ça s'adresse à qui ? À l'ancien public qui était là, qui a suivi dès le départ et qui est fan, au nouveau, même si je me dis que c'est quand même assez costaud quand même, si t'es nouveau dans l'univers, t'es totalement néophyte, tu débarques, tu te manges tout ça dans la gueule, ça doit être quand même assez désagréable. Donc oui, j'ai l'impression que ces films sont faits parce qu'il faut les faire, parce qu'ils ont commencé un truc et ils sont un peu dans l'optique, on a commencé, on termine. Mais sans véritablement savoir à qui destiner ces films. Avant, c'est simple, c'était pour les fans. Tu faisais Infinity War et tu faisais Endgame, tu savais que tu allais parler à tous ceux qui étaient là depuis le début, ou en tout cas, peut-être pas depuis le début, mais qui ont tout rattrapé, qui ont tout suivi religieusement, qui prenaient du plaisir en fait à assembler des pièces d'un puzzle. Là où aujourd'hui, tu es face à un puzzle, tu as 12 000 pièces devant toi, elles sont toutes bleues avec la même forme, ouais c'est juste décourageant.
Ce qui est même, tu vois, moi, la promotion a toujours joué un jeu important dans l'appréciation que je pouvais avoir de Marvel, parce que ça jouait aussi sur l'excitation que tu avais de certains projets. Et là, ça fait quelques temps que... Non seulement t'as l'impression que tous les trailers se ressemblent, qu'ils me teasent les mêmes trucs, ou que ça va... Clairement, tu sens dès le trailer que ça va un peu nulle part. Là où avant, même les trailers te faisaient te dire, au-delà de l'intrigue, qui est le méchant, machin et tout, tu te disais, ah ouais, mais du coup, ils peuvent tuer qui? Ils peuvent aller vers où pour teaser une pierre d'infinité ou quelque chose comme ça? Ça faisait partie du plaisir aussi, tu vois. Moi, je me souviens surtout de l'ère d'Ultron, tu vois, à l'époque, l'ère d'Ultron, quoi qu'on pense du film... Quand ils t'annoncent Avengers 2, tu dis, ouais, putain, 3 ans après Avengers 1, ça va être fou. Et puis, ils vont tuer forcément un personnage important. Bon, ils ont tué
Quicksilver.
mais ils avaient, tu vois, tu te disais, oh là, ça va être épique, il va se passer un gros truc. Et du coup, quand Infinity War a été teasé, mais là, c'était la folie, tu vois. Et ça, en fait, ils l'ont plus maintenant.
Bah, c'est-à-dire qu'on s'est quand même enthousiasmé du trailer d'Echo. En se disant, ça a l'air un poil de cul différent. Ah, ça peut être pas mal. On sait pas que là, la barre est au sol niveau attente et exigence.
Effectivement.
Bah, en fait, surtout pour. Moi, j'ai jamais vraiment été très excité par les Marvel, mais bon, il pouvait y avoir une pointe d'excitation parce que surtout, t'avais des personnages, ce qu'on dit, hein, établis, et donc t'avais peur potentiellement qu'ils meurent. Mais là. Bon. J'en ai rien à faire que Shang-Chi meure ou que...
Non, pas Shang-Chi, choisis un autre.
Ok, Black Panther.
Il est déjà mort.
Zut, il est déjà mort. du coup, non, mais que je sais pas, que Ant-Man meure ou que Monica Rambeau meure, je m'en fous. Enfin, je m'en fous complet que Kate Bishop meure. Ouais. Ça change quoi à ma vie? J'ai aucun attachement pour ces personnages que j'ai vus dans 5 épisodes dont la moitié n'était pas concentrée sur eux.
Effectivement.
Je m'en fous, complet. Donc c'est ça le problème, je pense, en ce moment. C'est juste que, quoi qu'il arrive, je m'en fous. Et je pense que le public est de plus en plus dans cette optique-là. C'est que, quoi qu'il arrive, au pire, ce personnage, de toute façon, je n'avais pas trop d'appréciation pour lui. Donc, qu'il meure ou qu'il reste en vie, ça ne change pas grand-chose.
Bon, en vrai, je sais pas trop ce qui m'a pris de penser qu'on pourrait faire le tour d'un aussi gros sujet en seulement une heure. Du coup, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, qu'on aille boire une tisane et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour aborder d'autres trucs qui fâchent, du genre box-office et effets spéciaux moches. En fait, je me disais même que ce serait un sujet évident si on faisait enfin un podcast. Ça devrait même être le tout premier sujet qu'on devrait traiter si on en faisait un. Bon, par contre, si on fait ce podcast, ce sera super cool, mais faudra pas oublier de dire subtilement aux gens, de mettre une bonne note, de partager, d'en parler autour d'eux, le tout avec le sourire. Mais bon, c'est le genre de truc, ça fait rarement naturel, je trouve.
C'est vrai.